Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste, une sorte de Tao Te Ching pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 38, le doute m'habite. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Comme le titre le laisse penser, nous allons aujourd'hui aborder le sujet du doute, et non pas de l'alchimie sexuelle. Le doute, au singulier, n'y aurait-il pas en réalité plusieurs types de doutes ? Et s'il y en a plusieurs, en quoi est-il nécessaire de les différencier? Et puis, comment faire? Attention, c'est pas un sujet de philo de terminale, ça va être très pratique. Le sujet de cet épisode que je vais traiter, avec beaucoup de tact comme toujours, attention, je suis en forme aujourd'hui, ne m'est pas venu d'une situation ou d'une lecture. Il m'a été suggéré suite à ma dernière newsletter, où j'ai passé les commandes aux auditeurs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est dommage, allez vite vous inscrire sur thedaoproject.org, téléchargez les cadeaux dont des mini-cours, et préparez-vous à recevoir des conseils rentre-dedans, une semaine sur deux, en plus du podcast. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, le sujet de cet opus m'a été suggéré par Anne et je l'en remercie. J'ai reçu plein d'autres très bonnes idées que je range précieusement dans ma besace. Elles feront l'objet des prochains épisodes, comme entre autres celui des élus. Mais revenons d'abord à notre sujet avec une mise en situation. Je suis au bord du plongeoir à la piscine, ou pour être plus réaliste, je suis sur un rocher dans l'Estérel, surplombant la Méditerranée. Et j'hésite. Je ne me pose pas de questions sur la température de l'eau, ni sur l'éventuelle peur que je pourrais provoquer aux poissons qui nagent tranquillement sous moi. Non. D'ailleurs, tout le monde s'en fout éperdument des poissons quand on plonge ou que l'on nage. Que l'on soit bouddhiste, vegan ou taoïste, on ne nage pas différemment. Faut être honnête, on se fout royalement de savoir si on dérange des poissons ou pas. Les vegans, hein, ce sont pas les impitoyables adversaires de Goldorak, bien sûr, hein, mais ceux qui ne veulent pas exploiter les animaux, tout en tuant chaque jour des milliers d'acariens innocents, en se lavant et en mangeant. À ta rue, bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Mais vous avez raison, on s'en fout aussi des acariens. Ils sont moches. C'est pas comme Pampan, le lapin copain de Bambi. Lui, il est si mignon et sympa. Donc, je suis sur mon rocher, au-dessus de la mer. Il y a des poissons en dessous. Pas de méduses. Je pourrais plonger. Pourtant, j'hésite, je doute, j'y vais pas. Alors, qu'est-ce qui me fait douter? Est-ce une réflexion philosophique sur la vie, l'univers? Est-ce que je suis brusquement en train de me demander si le plancton animal est considéré comme une forme d'acarien maritime? Et si je bois la tasse, combien de milliers de micro-crustacés vais-je tuer? Ou est-ce plus prosaïquement la peur? Clairement la peur. Il n'y a ici aucun jugement moral que je serais en train d'analyser, aucune philosophie en jeu. Juste la bonne vieille pétoche. Le doute peut être le simple produit de la peur. Et il n'y a pas besoin pour cela que la peur soit rationnelle. Depuis que je suis tout petit, j'ai peur du vide, avec une certaine tendance en plus à vouloir me jeter. Je veux dire, me jeter dans le vide, hein, pas comme mes ex-fans m'ont jeté. Quand j'étais gamin, j'avais même beaucoup de mal à grimper les escaliers dont les marches étaient disjointes. Vous savez, dans les magasins. Bon, j'ai pas mal travaillé dessus depuis, et je peux généralement me mettre au-dessus du vide sans commencer à paniquer. Je vous reparlerai de ma méthode dans un prochain épisode sur les émotions. Il y a trop à dire pour bâcler le sujet ici et maintenant. Pour en revenir à ma peur en haut de ce rocher, elle n'est pas rationnelle. Je ne suis guère à plus de 2 mètres de hauteur de la surface, et je sais d'expérience que je ne vais pas me faire mal. Donc oui, même une peur irrationnelle peut nous bloquer, nous faire douter. Ce qui est drôle, c'est que l'on peut se mettre à argumenter. On peut commencer à réfléchir sur les pour et les contre de la situation. On peut peser, juger et discourir sans fin autour du sujet. Pas pour résoudre la situation, non, justement pour ne pas la résoudre, pour ne pas arriver à une conclusion qui serait « plonge, grand crétin que tu es ». Alors, même si vous n'avez pas peur des hauteurs, même si vous n'avez pas les roches rouges de l'Estérel à côté de chez vous, il y a des chances que vous ayez déjà expérimenté ce phénomène. Peut-être était-ce avant de dire à une personne qu'elle vous plaisait, peut-être était-ce avant d'accepter un nouveau poste, peut-être était-ce avant de quitter un travail où vous étiez malheureux. En fait, Peu importe le sujet, c'est le même mécanisme qui est potentiellement à l'œuvre dans chacun de vos doutes.
Mais alors, comment savoir si c'est une peur irraisonnée ou, je ne sais pas, un moment de prudence pour ne pas faire une bêtise?
Super simple. Je suis sur mon rocher et je suis comme paralysé. J'y vais ou j'y vais pas.
Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà.
Je fais le silence dans mon esprit. Je n'ai donc plus de commentateur intérieur. Ou pour être parfaitement honnête, il se résume à énoncer des faits sans les commenter, les juger, et encore moins extrapoler dessus. Ça ressemble à ça. Goéland. Mal aux pieds. Mer. Soleil sur la peau. S'il y a plus que ça dans votre esprit, ce n'est pas du silence mental. Donc je suis là, dans cet état de silence, et que se passe-t-il? Rien. Je ne plonge pas pour autant. Donc voilà, je ne suis pas en train de me demander si je ne vais pas causer une frayeur aux poissons, si je ne vais pas avaler du plancton animal et trahir ma cause du vegan que je ne suis pas. Ou encore, s'il y a bien chaud et l'eau étant plus fraîche, je ne vais pas avoir un choc thermique. Non, rien de tout ça. Je suis juste bloqué. Bah, il y a un nom pour ça, la peur. Avec le silence mental et en faisant taire toute argumentation, je peux voir très clairement que le mécanisme qui m'empêche de passer à l'action n'est pas situé dans une trop forte action du « i », dans le fait que je serais génial et que mon esprit serait en train d'analyser tel Heisenberg la situation, mais bien dans une faiblesse du « z ». Et Heisenberg, hein, c'est pas le gars qui fait de la mette.
Now, say my name. Heisenberg, you're goddamn right.
Ah, donc il faut le silence mental pour voir ça?
Bien sûr. Tous ceux qui n'ont pas cette qualité ne peuvent pas distinguer entre une agitation stérile de leur yi et cette faiblesse du zi. Ils vont argumenter sans cesse, citant Google, Marie Claire ou Men's Health. Ils vont tourner en rond en essayant de justifier leur incapacité à passer à l'action par des pseudo-raisonnements. Ce qui est drôle, c'est que n'importe qui, d'extérieur à la situation, et qui possède le silence mental bien sûr, peut démolir leur construction mentale en deux coups de cuillère à peau.
Mais pourquoi ils font ça?
En réalité, c'est un processus qui n'est pas vraiment conscientisé. Ce n'est pas de leur faute. Imagine que tu es une équipe qui, dans une entreprise, doit se lancer dans un projet. La personne qui s'occupe de la mise en place opérationnelle ne le sent pas. Là, celui qui s'occupe de faire des PowerPoint inutiles, appelons-le Polo, lui dit « Oh, t'inquiète pas Bob, je vais te pondre un super document que la direction, elle pourra même pas choisir. » Oui, Polo fait des super PowerPoint, mais il parle mal le français. Donc Polo prend un document magnifique et la direction approuve sa qualité. Comme de juste, elle ne peut pas trancher, car il a tout prévu pour laisser des doutes. Donc, que fait la direction? Très courageuse, elle recommande un autre super rapport à Polo.
Ok, mais il y gagne quoi, Polo? Il se donne plus de travail?
Il y a fort à parier qu'à son évaluation annuelle, le boss de Polo le félicite pour son super travail, ses compétences, voire son esprit d'initiative. Il y gagne une espèce de reconnaissance de sa valeur, une augmentation, le fait d'apparaître comme un rouage indispensable de la grande entreprise.
Mais la boîte, elle y perd à long terme, si les projets se font pas.
Exactement. Mais Polo s'en fout, car il a une vision à court terme. Il ne veut pas être viré demain. Il veut toucher son salaire à la fin du mois, payer ses crédits à la consommation. Donc ce qui peut advenir dans un an, dans 10 ans, franchement, il n'en a cure.
T'es en train de dire que notre mental n'a aucune vision du futur, et qu'en fait, tout ce qui compte à ses yeux, c'est qu'il reçoive du pouvoir, tout de suite.
C'est ça, le yi veut du chi, du budget, du salaire si on reste dans le champ lexical de l'entreprise. Et il le veut de suite. Il n'est pas capable de se projeter réellement.
Mais quand même, on planifie.
Oui, mais on devrait plutôt parler de pseudo-planification. Combien de personnes qui fument savent qu'ils risquent de développer une pathologie très grave dans 10 ans? Tous. Combien arrêtent de fumer le jour même? Aucune. Il n'y a rien de plus à dire pour montrer que non, nous ne savons pas gérer le futur.
On a parlé du « the », mais il n'y a pas un doute qui peut provenir du « i » ?
En effet, et j'ai déjà esquissé le souci. Quand le « yi » est « yang », ou pour parler moderne, quand le mental est hyperactif, il se complaît dans la réflexion. Nous allons nous retrouver dans un tourbillon de pensées qui se nourrissent entre elles, qui s'auto-alimentent. Ce tourbillon est sans fin. Ce serait comme si en tirant la chasse, l'eau avec notre production malodorante ne voulait pas partir.
Et le pire, c'est que la crotte flotteuse est toujours là, en rafting, dans le tourbillon.
Quoi qu'on fasse, ça continue de tourner. Vous avez sans doute expérimenté cela. Vous avez sans doute expérimenté ça le soir avant de vous endormir. Vous êtes à une période charnière, vous avez une décision importante à prendre. Vais-je acheter la Twingo en rose licorne ou en bleu Tobago ? Et vous ne pouvez pas juste arrêter d'y penser. C'est tellement fort, tellement puissant que vous n'arrivez juste pas à vous endormir. Restez jusqu'à la fin, je suis sympa, je vous donnerai un exercice pour vous aider à la fin de l'épisode. Hein. Mais attention, ce tourbillon prend parfois un aspect bien plus vicieux. Avant de pratiquer, avant d'avoir le silence mental, j'avais une pensée en arborescence. Je sentais dans mon esprit tous les chemins que je pouvais prendre. Je pouvais les explorer virtuellement, les tester, imaginer les situations, voir les avantages, les inconvénients. Je pouvais passer d'une branche de mon arbre à une autre. Et je ne m'en privais pas. J'avais cette impression d'avoir le futur dans mon esprit. C'était cool. Je pensais même que c'était une forme de super pouvoir, que j'étais génial, que j'avais une capacité que les autres n'avaient pas et que... Waouh ! Vous aussi, vous avez cette super capacité ? En réalité, désolé de briser votre rêve, mais il ne s'agit en aucun cas d'une super capacité, mais d'une banale pathologie.
Non.
Si. Et avant que vous ne m'insultiez sur Internet en me citant telle ou telle étude, écoutez-moi. Si vous pensez ainsi, c'est simplement parce que vous n'avez pas expérimenté le silence mental, cette fabuleuse qualité taoïste, celle du yi. Quand je m'entraînais dans le but de l'obtenir, j'avais moi aussi beaucoup de doutes. Je ne comprenais pas comment, en ayant une qualité qui réduit le nombre de pensées, j'allais mieux pouvoir réfléchir. J'avoue, j'avais même peur de devenir une espèce de légume et de ne plus pouvoir faire mon travail intellectuel. C'est normal de ne pas comprendre quelque chose que l'on n'a pas expérimenté. C'est exactement comme de ne pas comprendre comment on peut faire du vélo sans tomber ou nager sans couler. Là, c'est encore pire, c'est dans l'esprit des gens. Donc, vous ne pouvez même pas être le témoin de cette qualité. La compréhension du mécanisme ne fait sens qu'en l'ayant. Discuter du silence mental sans l'avoir, c'est comme de vouloir commenter l'état intérieur d'un combattant de MMA lors d'un match quand on n'est jamais monté sur un ring. C'est parler sans savoir. Donc moi aussi, je parlais sans savoir. Ça m'inquiétait un peu. Et honnêtement, je ne comprenais vraiment pas comment ça pouvait fonctionner. Et puis un jour, j'ai trouvé la qualité. Brusquement, c'était là. Je ne pourrais pas vous dire si c'était un samedi ou un dimanche, mais je me souviens parfaitement de l'instant, de l'avant et de l'après. Et là, brusquement, tout fait sens. Avec le silence mental, on n'a pas besoin d'imaginer ce qui peut bien tourner ou ce qui va foirer. On le sait, c'est tout. On a la pensée juste qui arrive. C'est un peu comme si au lieu de faire 10 réunions de travail avec tous vos collègues, réunion où chacun va parler de ses problèmes d'enfant, de poisson rouge ou du dernier match de foot. C'est comme si au lieu de faire ces réunions qui tournent en rond, on vous donnait le PowerPoint final. Mais mieux que ça, c'est comme si sur la première page du document, superbement bien charté aux couleurs de la boîte, bien entendu, on vous avait résumé tout le bazar en une phrase courte. Ignore la couleur, prends la Twingo la moins chère. Eh bien, à partir de ce jour, toutes mes décisions au travail sur des projets très techniques, à la maison, dans ma vie, dans ma pratique, se sont retrouvées brusquement et complètement simplifiées. J'avais tiré la chasse d'eau et l'eau de la cuvette était redevenue claire. Plus de pensées arborescentes, moins de fatigue intellectuelle. Il ne restait qu'un processus simple, rapide et efficace. Je vous demande pas de me croire sur parole, ça n'aurait aucun sens. Mais juste d'accepter que ce que je vous raconte est peut-être possible pour vous aussi. Gardez juste à l'esprit cette possibilité. Et je vous dis ça après moi aussi avoir cru pendant des décennies que la pensée arborescente c'était un super pouvoir. Non, en réalité, c'est un moyen de douter.
Mais pourquoi on fait ça ? Ça va contre ce qu'on cherche ? Contre notre survie ?
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
Ben oui, c'est pour ça que je disais que c'est une pathologie. Ce serait comme de demander pourquoi on attrape une bronchite. On ne doit pas plus avoir de bronchite chronique que de pensées arborescentes dans son mental.
Est-ce que c'est encore un moyen pour le yi d'avoir plus de chi ?
Exactement. Le yi, le mental, est tel un ministre de notre empire qui a peur pour son budget. Il veut le conserver à minima tel quel, voire l'augmenter. Et c'est très pervers, car comme le yi est le ministre de l'information, il va manipuler celle-ci pour justifier son action. Il va donc tout faire pour que vous ne diminuiez pas son pouvoir. Il va tout faire pour vous faire croire que soit vous avez obtenu le silence mental, ça c'est pervers, soit que cela ne sert à rien, que ce sont des foutaises, comme tout ce que je raconte dans ce podcast. On doit se rendre compte que nous confions en grande partie notre politique intérieure à notre ministre de la propagande. Et si ça ferait bien plaisir à Edward Bernays, c'est franchement pas une bonne idée pour notre avenir de procéder ainsi. La propagande n'a aucune place dans notre vie.
Attends, il y a d'autres doutes. Parfois, j'ai deux solutions qui se valent exactement et j'arrive pas à trancher.
Je suis d'accord. Pour se concentrer juste sur cette forme de doute précis, on va partir de l'hypothèse que le Yi a relativement bien fait son travail. Il se pointe avec son PowerPoint qui est bien résumé en deux points. Solution A et solution B. Quelle va être la solution finale ?
C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Nous sommes en 1955, Herr Bramar, on peut avoir une deuxième chance ?
Et là, on sèche, on est bloqué. On regarde nos deux solutions et on n'arrive pas à trancher. On se remet à douter.
C'est vrai que si je prends la Twingo en rose licorne, ben, je pourrais la retrouver de suite sur le parking du Super U. Par contre, en bleu Tobago, ça irait mieux avec la couleur de mes yeux.
Oui, je demande souvent à Sophie de jouer la cruche, mais c'est bien parce qu'elle n'en est pas une. Donc me voilà bloqué. Ne pourrais-je pas avoir un peu des deux mondes ? Difficile, voire impossible. C'est le dilemme fromage versus dessert, liberté versus gros salaire, et ainsi de suite. Il y a parfois des moyens d'avoir le meilleur des deux mondes, comme en prenant un cheesecake, mais parfois c'est impossible, on reste bloqué. Et que fait-on alors ? Il y a fort à parier que nous allons refaire un tour de consultation du Yi. On lui renvoie son document avec un petit mot manuscrit. Tu pourrais pas me donner un avis un peu plus tranché, non ? Comme on a fait l'hypothèse que le Yi avait pour une fois bien rempli sa mission, il n'aura pas cette fois-ci une réponse différente. Il ne dispose pas de nouvelles données qui pourraient influencer son jugement. Donc il va aboutir au même résultat. Et donc, on se retrouve une fois de plus bloqué. On hésite, on doute. Ce n'est pas vraiment une peur. S'il faut même, on a le silence mental. On voit bien que ce qui coince, ce n'est pas le fait que l'on n'ait qu'une seule voie de sortie et que l'on n'ose pas la prendre. Non, on voit que l'on a deux voies, deux chemins, et que l'on n'arrive pas à décider.
Qu'est-ce qui bloque alors ? Si c'est pas le yi, si c'est pas le de...
C'est le pot, l'âme corporelle, comme c'est souvent traduit. C'est le ministre du choix. C'est le pot qui tranche et qui décide d'aller vers la solution A, et donc aussi d'abandonner l'idée de la solution B. Le pot nous donne la capacité de laisser tomber une potentialité, de la jeter à la poubelle comme un mouchoir en papier usagé. Le pot nous donne le lâcher-prise. Il nous permet de dire « Ouais, je vais prendre du fromage aujourd'hui car je m'en fiche d'avoir un dessert. Ouais, j'adore les desserts. Et alors ? Aujourd'hui, c'est fromage. Demain, on verra. » Sans le lâcher prise, on se retrouve avec cette incapacité de choisir franchement, clairement, nettement. On fait un pas en avant, un pas en arrière. On choisit puis on regrette. On veut tout en même temps et au final, on ne gagne rien. Voire, on perd tout.
Alors, pour l'instant, on a du doute dans le de, dans le i, dans le pot. Enfin, je suppose qu'il y en a aussi dans le un.
Pas exactement dans le Hoon, mais oui, et il y en a même deux. What ? Comme dirait Choco dans Disenchanted ? Oui, deux doutes. Commençons par le premier, un qui est commun à la grande majorité des gens et qui est lié à l'absence de clarté. Par clarté, j'entends la qualité taoïste. Il s'agit d'avoir la vision de soi la plus juste possible. Ainsi, si comme moi il y a 20 ans, vous pensez qu'avec votre pensée arborescente, vous avez un super pouvoir, que vous n'êtes pas capable de discerner en quoi cette capacité ne fonctionne pas efficacement, vous n'avez pas de clarté sur vous. Si vous ne comprenez pas les mécanismes qui régissent vos émotions, que vous vous considérez comme un hypersensible, vous n'avez pas de clarté. Si vous pensez que vous êtes génial, supérieur aux autres, vous n'avez pas de clarté. Si vous ne savez pas quel est votre vrai but dans cette vie, vous n'avez pas de clarté. Et si vous pensez que vous n'êtes qu'une bouse, que tout le monde est meilleur que vous n'arriverez jamais à rien.
Vous n'avez pas de clarté. Mais quel est le rapport entre la clarté et le doute ?
Dans le dernier exemple, c'est évident. Je pense n'avoir aucune valeur, donc je vais douter de tout. Dois-je proposer ma candidature pour ce job ? Dois-je dire à Polo que je l'aime alors qu'il mérite mieux que moi ? Oh, il fait de si beaux PowerPoint. Dans les autres, c'est plus long à expliquer. Me croire génial, supérieur aux autres, penser être un vrai prodige, semble ne laisser aucune place au doute dans ma vie. Pourtant, comment vais-je gérer mes échecs ? Je suis génial, mais ma femme me quitte. Pourquoi ? Je ne comprends brusquement plus rien. Mon monde s'effondre en partie et je vais douter de tout. Bonjour la déprime. C'est beau d'avoir des certitudes. Encore faut-il qu'elles soient fondées. Dans le cas contraire, on s'expose à un doute incompréhensible et envahissant.
Sheng Ren ne se prend pas pour grand. Ainsi, il peut accomplir sa grandeur. Tao Te Ching, chapitre 34.
Si je ne sais pas quel est mon but dans la vie, comment puis-je choisir une voie ou une autre, un métier ou un autre ? Sur quels critères ? L'argent ? La reconnaissance sociale ? Si je crois que mon but dans la vie est d'être un grand guérisseur de Gaïa, déjà, faut être réaliste, on est guère plus que des acariens sur cette terre. Si je crois ça, et que rien de ce que je fais ne semble vraiment fonctionner, ou qu'il commence à m'arriver des trucs désagréables, comme des problèmes de santé, comment est-ce que je vais réussir à faire cadrer mes délires avec la réalité ? J'ai deux possibilités. Je peux soit m'enfermer dans mon délire et refuser les preuves concrètes de mon égarement, soit me mettre à douter de tout ce que je fais, de tout ce que je crois sur moi. Dans les deux cas, on voit bien que le processus n'est pas très sain.
Chacun de nous se surmène, sans voir aucun succès. Affairé et exténué, il ne sait où il va. N'est-ce pas déplorable ? Chuang Tzu, chapitre 1.
Et si vous pensez que vous êtes un hypersensible, que c'est une caractéristique qui vous définit, vous confondez simplement qui vous êtes avec une expression de qui vous êtes. C'est pas clair ? Je détaille. Je peux naître avec un poumon et un système immunitaire un peu faible, ce qui aura sans doute pour conséquence que j'attrape des bronchites à répétition. Est-ce que je suis un bronchiteux chronique ? Non, je suis quelqu'un qui a une faiblesse qui peut m'amener à avoir des bronchites et qui ne fait pas ce qu'il faut pour s'en prévenir. Il s'agit simplement de ne pas confondre qui on est avec notre manifestation. On peut être génial dans un domaine, qui on est, mais ce n'est pas pour autant que l'on doit traiter les autres comme de la bouse, manifestation. On peut avoir un déséquilibre du Oun, qui on est, qui fragilise notre capacité à gérer nos émotions, mais nous ne sommes pas hypersensibles, manifestation. Confondre les deux va nous mettre devant un lot de situations que l'on ne va pas comprendre. Cela va nous empêcher de voir les bons choix, dans le sens de bons choix pour qui nous sommes réellement. On va, c'est logique, se tromper régulièrement. Et devant tous ces échecs, on va de plus en plus douter de notre capacité à vivre correctement dans ce monde. Et je vous rappelle qu'être dominé par ses émotions n'est pas dans la nature de l'humain.
Ses émotions étaient tranquilles, son visage imperturbable. S'il était froid, c'était comme l'automne. S'il était chaud, c'était comme le printemps. Sa joie et sa colère se manifestaient selon le rythme des quatre saisons. Chuang Tzu, chapitre 6.
Pour vous remonter le moral, sachez que si nous ne pouvons pas modifier qui nous sommes, nous pouvons modifier absolument toutes les manifestations qui nous dérangent. Nous ne pouvons pas corriger qui nous sommes, mais corriger efficacement comment nous interagissons avec le monde.
Tu avais parlé d'un autre doute qui était lié au Oun.
Oui, et c'est un doute très positif. C'est le doute des anciens, des sages. C'est cette forme de prudence qui veut nous conduire à ne pas tout prendre pour vrai, à ne pas systématiquement accepter comme vrai tout ce qui nous est présenté. Surtout si ça nous caresse dans le sens du poil, si ça justifie nos faiblesses.
Les anciens étaient hésitants, comme pour traverser un fleuve gelé. Attentifs, oh, comme ceux entourés par le danger. Dao De Jing, chapitre 15.
Cette prudence, c'est le doute de Pascal, celui du scientifique, celui du taoïste. On doute car la preuve matérielle, répétée, irréfutable, ne nous a pas encore été présentée. C'est pour ça que je vous dis de ne pas me croire.
En résumant, il y a un seul doute positif et quatre autres formes de doute qui nous empêchent d'avancer. Mais comment on fait pour lutter contre eux ?
C'est simple. Abonnez-vous à thetaoproject.org.
Je rigole !
Sérieusement, comment supprimer les quatre formes de doute ?
Il y a 5 solutions. 1. Entraîner la volonté en se confrontant à ce qui nous bloque. 2. Calmer le mental avec tous les exercices de méditation. 3. Être clair sur soi en observant par exemple la différence entre comment on se voit et notre expression réelle dans le monde matériel. 4. Savoir trancher en développant le lâcher prise et en travaillant sa respiration. 5. Savoir demander des signes pour avoir des informations sûres avec par exemple l'étude du Yijing. Mais n'oubliez pas, gardez la prudence du taoïste. Vous avez compris que si j'ai scindé le doute en 5 parties, 5 origines, dans la réalité, celles-ci se mélangent. Nous n'avons que très rarement un seul problème. C'est pour ça qu'idéalement, vous devriez appliquer ces 5 correctifs, ou à minima, les 4 premiers. Ne cherchez surtout pas à vous auto-diagnostiquer, vous avez toutes les chances du monde de vous tromper. Allez-y plutôt avec un antibiotique spectre large et couvrez tout.
Et tu avais parlé d'un exercice pour s'endormir plus facilement.
Tu es dans ton lit, lumière éteinte, et ça commence à mouliner fort là-haut, dans le mental. L'astuce est de lui donner autre chose à faire. On pourrait lui demander de compter des moutons, mais quitte à le faire travailler, autant lui demander quelque chose d'utile. Tu peux par exemple poser ton attention sur tous les muscles qui bougent pendant la respiration, ou sur chacune des parties de ton corps, ou sur des points d'acupuncture. Il ne s'agit pas de chercher à avoir un effet. On pose juste notre attention. On essaie de ne rater aucun détail. Notre yi est très limité, et contrairement à la croyance de ceux qui se pensent géniaux, il ne peut faire efficacement qu'une seule chose à la fois. Donc en le posant sur notre corps, il ne pourra pas se poser sur nos soucis. Très simple, non ? J'espère que ce sujet vous a plu et qu'il vous a un peu plus éclairé sur cette notion fourre-tout de doute. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous inscrire sur thedaoproject.org pour recevoir un exercice mercredi prochain en rapport avec ce travail du doute. Partagez ce podcast s'il vous a plu, notez-le 5 étoiles, aidez-moi à le faire connaître. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook dont le lien est dans la description. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à mercredi prochain pour un conseil et un exercice dans votre boîte mail. Et d'ici là, bonne pratique.
Dubitatif, ça veut dire que je suis dans le doute, enfin, tout, hein, c'est tout. Le doute m'habite, voilà.
C'était Chien qui boit dans une écuelle. Ce moment d'ASMR vous a été présenté par le podcast du Tao pour tous.